donner une parole que je vais donner maintenant.
Alléluia, Seigneur.
Alléluia. C'est ce verset qui était imprimé à mon cœur très fort ce matin. Si vos péchés sont comme le cramoisi, rouge sang, ils deviendront blancs comme la neige. Est-ce qu'on peut transformer quelque chose qui est rouge de sang? Est-ce que lorsque nous avons du sang sur nos mains, il y a quelque chose pour blanchir cette horreur-là? Et devant Dieu, nous sommes tous coupables. Tous. Eh bien, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Quel passage! Qui peut blanchir nos transgressions? Et le Seigneur dit aussi, c'est moi, dit le Seigneur, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quel passage! Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner tous, pour nous purifier de toute iniquité. C'est la vérité. C'est Dieu qui le dit. Et nous pouvons le croire sur parole. Et le Seigneur adresse cette parole à quelqu'un au milieu de nous. Je veux que la vérité soit au fond de ton cœur. J'aime la droiture.
Amen.
Me voici, dit le Seigneur, pour sonder ton cœur et l'amener à ma parfaite lumière. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux le comprendre. Mais si tu laisses mon esprit t'éclairer, tu comprendras ce qui t'est resté caché jusqu'à ce jour. Oh Seigneur,
merci.
Merci pour ta parole qui est la vérité. Pour tes paroles qui sont esprit et vie. Et s'il y a quelque chose en nous qui est mort, si notre âme est morte, tu peux la faire rejaillir, revivre, en l'amenant à ta divine lumière. Oh, nous n'avons rien à craindre dans ta lumière, parce que ton amour est parfait. Tu nous tends les bras, tu veux au contraire nous réconcilier avec toi. Alors, Seigneur, tu es toujours celui qui pardonne les péchés les plus horribles que nous ayons commis. Tu es là pour nous les pardonner. Alors Seigneur, comment craindre un Dieu d'amour comme toi qui nous a aimés jusqu'à te sacrifier pour moi, pour chacun de nous. Nous voulons encore te dire que nous t'aimons. Merci Seigneur pour un sacrifice aussi grand que le tien. Tu appelles encore aujourd'hui tout homme, toute femme, à se réconcilier avec toi. Quel que soit son passé, quelle que soit sa situation, tu es toujours là, Seigneur.
Oui, merci.
Pour nous tendre les bras. Elle ne saurait se lasser de nous.
Gloire à ton nom.
Il ne saurait
Bénis
courir à notre secours chaque fois que nous en avons besoin.
Amen.
Il est là pour intervenir dans nos situations les plus diverses, les plus douloureuses, les plus fatigantes, les plus éprouvantes. Le Seigneur est là. Il a toujours une parole à nous dire. Et le Seigneur m'a donné cette parole pour Michel. Ce matin, m'a donné cette parole pour toi, Michel. Et il te dit, tu t'es fatigué pour beaucoup de choses. Des choses qui, à mes yeux, n'avaient aucune valeur. Maintenant, tu te sens faible et désemparé, mais moi, je t'ai préparé un chemin que tu ne connais pas. Confie-toi en moi et je renouvellerai tes forces. Tu pourras maintenant me servir avec ces nouvelles forces que je te donnerai et que je te donnerai sans me lasser. Je te donnerai, renouvellerai toujours tes forces. Jusqu'à présent, tu étais comme bloqué sur ta route par un obstacle qui te semblait insurmontable. Mais maintenant, tu pourras à nouveau grandir et progresser, aller de l'avant avec ton Seigneur.
Amen.
Je suis l'Éternel, ton Dieu, et je viens à ton secours. Rappelle-toi simplement que je suis chaque jour à tes côtés pour te conduire. Je serai pour toi cette source constante, intarissable.
Amen.
Jésus.
Amen.
Merci, Seigneur.
Seigneur, écoute, entends ton cri.
Merci, Seigneur.
Il a répondu ce matin.
Merci, Seigneur.
Merci, Jésus.
Merci, Seigneur.
Merci, Jésus.
Tu es le consolateur,
Seigneur.
Et tu es le bon berger.
Merci, Jésus.
Tu viens toujours au bon moment, Seigneur. Nous l'avons vu dans notre vie, tu n'arrives jamais en retard.
Tant de fois, tant de fois.
Nous avons l'impression que tu es en retard.
Tant de fois tu es venu, tant de fois.
Mais c'est nous qui sommes trop pressés.
Tu es vraiment un bon berger.
C'est nous qui faisons la sourde oreille.
Oui.
Alors que tu voudrais agir.
Nous ne voulons rien entendre, alors tu veux nous aider.
Seigneur,
tu es si bon, Seigneur.
De toucher nos cœurs, afin de les rendre toujours sensibles à ta voix. Tu n'es pas loin de nous. Tu es près de ceux qui t'invoquent d'un cœur pur et un cœur brisé. Tu es près de celui
qui a le cœur
brisé,
qui ne dédaigne pas un cœur brisé.
Et un esprit contrit.
Oui.
Merci, Seigneur.
Oh,
Peut-être que je vais ordonner cette parole.
Merci, Seigneur.
Pour nous tous, là.
Gloire à ton nom.
Que le Seigneur nous adresse à tous. Tous ses enfants. Celui qui se confie en moi ne sera jamais déçu. En ces temps éprouvants, pour toi, mon peuple, mes enfants, avant mon glorieux retour, c'est ton espérance et ta confiance en moi qui te soutiendront. Rien d'autre. Ta confiance en moi et ton espérance de la vie éternelle. Tiens ferme ce que tu as, mon peuple de Dieu, afin que rien ni personne ne puisse te ravir la récompense qui t'attend auprès de moi. Sois vigilant à me laisser toujours la place de Seigneur sur ta vie, celle qui me revient, afin que chacun de vous soit prêt lorsque la trompette sonnera, et que je reviendrai pour vous prendre auprès de moi tous ceux qui se seront préparés à me rencontrer. Le temps est court. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, nous dit le Seigneur. À tous. À tous.
Merci. Nous sommes donc dans ce temps de préparation sur cette terre. Puissions-nous tous le faire. Et j'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 2. Vous allez me dire, c'est pas Noël actuellement, mais c'est un peu. C'est un passage concernant Noël. Mais dans ces premiers chapitre 2, les 15 premiers versets, il y a là quatre types de personnes par rapport à la vérité. C'est intéressant de savoir comment les gens réagissent par rapport à la vérité. Et là, dans ces 15 versets, il y a quatre types de personnes. Alors, au fur et à mesure qu'on va lire, on va noter ces quatre types. Donc, Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages. Souligné, ça c'est le premier type, les mages. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, soulignez Hérode maintenant. Là, il y a un deuxième type là, un deuxième type. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les sacrificateurs. Soulignez le mot sacrificateur maintenant. Il y a là le troisième type. Par rapport à la vérité, on va voir tout à l'heure, et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode, et il revient ici, fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Soulignez Marie ici. Et se prosternèrent et l'adorèrent. Il n'est pas dit ici qu'ils adoraient Marie, attention. Ils adorèrent le petit enfant. Là, il y a le quatrième type de personne, en la personne de Marie et de Joseph, puisqu'ils étaient ensemble. Tout à l'heure, on va trouver Joseph un peu plus loin. sa mère se prosterne. Elle l'adorait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Oui, donc, Marie et Joseph, c'est le quatrième type de personne qui, par rapport à la vérité. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour le faire périr. Tout à l'heure, j'ai cru qu'il voulait y aller pour l'adorer. Hein? J'ai cru qu'il voulait aller pour l'adorer. Non, c'est pas ça. Il vient pas pour l'adorer. Cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il y en a donc, on peut dire naturellement, beaucoup de choses. Mais voyons ces quatre types de personnes. C'est très intéressant par rapport à la vérité. D'abord, les mages, puisqu'on parle d'eux en premier lieu. Alors, il y a une petite pensée qui va résumer ça, toujours par rapport à la vérité. Les mages, ce sont ceux qui cherchent sérieusement, vous êtes d'accord avec moi? Ils ont cherché sérieusement la vérité, la preuve. Jésus étant né en Bethléem, en Judée, au bouton et au droit, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il y avait du chemin. Ils ont voyagé pendant des journées. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, il y a là, en la personne des mages, ceux qui cherchent sérieusement la vérité. Et que rien n'arrête, ni la distance, ni le temps, ni l'argent, ni quoi que ce soit, ils étaient décidés à connaître
la vérité.
C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous, bien souvent, la moindre difficulté nous arrête. Oh, c'est trop loin. Oh, c'est trop près. Oh, il y a toujours une raison pour que on ne fasse pas ce que Dieu nous demande. Mais eux, des milliers de kilomètres. Voyez-vous, il y a là une pensée profonde. Dieu se révèle toujours à celui qui le cherche sincèrement. Invoque-moi dans la détresse et je te répondrai. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voyez-vous, on voit là que le Seigneur est toujours disposé et disponible pour se révéler à quelqu'un qui cherche la vérité de tout son cœur. Et les mages sont ce type de personnes. Ils l'ont vraiment prouvé et rien ne les arrêtait. Ce n'était certainement pas facile, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps-là, et ils viennent aussi avec de l'or, de l'argent, de la myrrhe. Ils ont comme une révélation de Dieu. Où est le roi des Juifs qui devait naître? Rendez compte, c'est des païens. Et ils parlent déjà d'un roi des Juifs qui devait naître. Voyez-vous, quand on est disposé à connaître la vérité, eh bien Dieu se révèle aussi. Les choses sont beaucoup plus faciles. Souvent, on est perdu quant à la vérité parce qu'on n'est pas décidé à la trouver. On n'est pas sérieux. Après, on dit, oh, mais moi, j'ai prié, j'ai parlé, j'ai demandé, il n'y a rien qui s'est passé. Étais-tu sérieux? Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, pourquoi Dieu serait sérieux avec nous? Ça ne marche pas. Et encore, on se plaint. Oh, Seigneur, non, c'est pas sérieux. J'ai fait ceci et ça. Mais étais-tu sérieux? Dieu est toujours près de celui qui le cherche. Oh. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Il y a tant de passages, tant de versets, on ne va pas les nommer vous-même dans une concordance, vous pourrez les prendre après. Ceux qui cherchent, Dieu se révèle. Et on voit là en ces mages, ceux qui cherchent sérieusement la vérité la trouvent.
C'est vrai.
quels que soient les obstacles, n'est-ce pas vrai? Même des gens qui sont dans des sectes, mais qui cherchent la vérité, Dieu les en sort.
Oui.
Ils sont insatisfaits, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'ont pas content, ils sont là, on le voit ça aussi.
Oui, c'est vrai.
Mais il y en a d'autres qui s'y plaisent,
oui.
Ça les arrange,
oui.
Il y a une sorte de motivation,
uh-huh.
Mais il y en a d'autres qui sont là, ils veulent la vérité. Uh-huh. La vérité, c'est ce que je veux, rien d'autre. Ils veulent connaître le vrai Dieu. Uh-huh. Et non pas être encensé par l'un ou par l'autre, qui vient et qui veut, qui fait mes petits caprices. Non, c'est pas ça que je veux. Connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui libère, c'est rien d'autre.
Mm-hmm. C'est vrai.
Alors, premier type de personne, que nous soyons tous de ce genre de personne, n'est-ce pas vrai?
Mm-hmm.
Le Seigneur nous invite à être comme ces mages. Et une fois qu'on a connu la vérité, il ne faut pas s'arrêter. Une fois qu'on a connu, eh bien, il faut continuer. On sait que cette vérité est tellement merveilleuse qu'on en veut toujours plus. Et on ne s'arrête pas. C'est un chemin extraordinaire. Le chemin du juste est comme une lumière qui va en grandissant.
Amen.
Mm-hmm. C'est vrai.
On ne se lasse pas de cette vérité. C'est quelque chose qui nous a pris, qui nous a saisis, comme Paul pouvait le dire. Il m'a saisi, j'ai été saisi, c'est pourquoi je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'ai été saisi. Et pourtant, c'était un pharisien. Mais au sein de... Il était sincère. Il cherchait la vérité. Et il l'a trouvée quand? N'est-ce pas merveilleux? Premier type de personne. Ceux qui cherchent sérieusement la vérité, eh bien, la trouveront. Ça, c'est une consolation, n'est-ce pas vrai?
Oh, oui.
C'est pourquoi jamais personne ne pourra accuser Dieu
non.
de ce qu'il ne s'est pas révélé à l'un ou à l'autre.
Mm-hmm.
Nous ne savons pas tout dans la vie de quelqu'un.
Bien sûr.
Dieu seul
c'est
sait.
Ça. Mm-hmm.
Mais celui qui cherche Dieu de tout son cœur pour connaître la vérité, Dieu se révélera.
Oui.
Tôt ou tard,
toujours.
Il nous conduira.
Toujours.
Pour, vers l'un, vers l'autre,
mm-hmm.
entendre quelque chose, quelqu'un qui nous parle du Seigneur, quelqu'un nous donne un livre, une Bible, enfin, il y a un contact. Mais comment ça s'est passé avec vous? Moi, je vois comment ça s'est passé avec moi.
Ah oui, c'est ça. Mm.
Si on cherche vraiment la vérité, on la trouvera.
Mm-hmm.
Ça, je trouve que c'est une merveilleuse vérité.
C'est vrai.
Quand on dit, oh, mais moi j'ai cherché, et puis j'ai rien eu. Non, c'est pas vrai. Tu mens. Tu n'as pas été sérieux. Tu n'as pas été sérieux.
Dans ta recherche.
Au lieu de mettre la faute sur Dieu, sonde ton propre cœur. Est-ce que tu étais sérieux? Et si Dieu se révélait, étais-tu prêt à obéir à cette vérité?
Voilà.
Oh, mais non, je suis un peu comme ça. Moi. Ah bon, mais c'est pas comme ça que ça marche avec la vérité. La vérité, c'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse, c'est pas un jouet comme ça. C'est quelque chose qui va bouleverser, transformer ta vie
mm-hmm.
et faire de toi un nouvel homme, une nouvelle femme.
Mm-hmm.
Si quelqu'un se dit qu'il a la vérité et dont la vie n'est pas changée, moi, la vie, il n'a pas connu la vérité. Et on voit combien de gens ont une religion, ils n'ont pas la vérité, leur vie n'est pas changée. Ne prenons pas surtout modèle sur ces gens-là. C'est pas eux notre modèle. L'apôtre Paul pouvait dire, lui-même comme il a été transformé, si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle
créature. 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez ce verset. Tous les chrétiens devraient connaître ce verset par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Toutes choses.
C'est quelqu'un qui veut vivre une vie nouvelle. Les mages. Nous sommes venus d'Orient. Nous avons vu son étoile. Ils ont été guidés surnaturellement. Voyez-vous, Dieu peut même faire des miracles. Des choses surnaturelles pour t'aider.
Ben, tout à fait.
Bien sûr.
Il l'a fait pour nous aussi.
D'une manière ou d'une autre.
Oh là là.
D'une manière naturelle ou d'une manière surnaturelle. Dieu a tous les moyens.
Tout.
Une étoile était là. Une étoile qui les dirige. Il dites, mais c'est un mythe, ça, c'est quoi? Non,
ah, oui.
Non, non. Mmh. Ceux qui croient au mythe, ce sont des mytheux. Mais ça, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Et si nous croyons cela, cette vérité nous changera. Et vous avez vu, ils sont arrivés au but. Vous avez remarqué? Là, l'étoile les a conduits jusqu'à au-dessus de la maison où étaient Joseph et Marie. Extraordinaire. Ça ne bougeait plus. Ah, ils se sont dit, bon, ils sont mentis. On a suivi jusqu'à présent. Jour et nuit, jour et nuit. Tout le temps, il devait être là.
Elle va où?
Maintenant, elle va où cette étoile? Il faut qu'on la suive. Jésus, l'étoile brillante du matin. C'est l'image de Jésus, là.
Oui.
Déjà, prophétisé. Il est l'étoile brillante du matin. Si on le suit, on arrivera toujours au but. Il faut que je vous donne les trois autres types, sinon après vous allez me gronder. Maintenant, un deuxième type de personne. C'est en soulignant le mot sacrificateur. Les sacrificateurs, c'est un deuxième type de personne par rapport à la vérité. Et là, ils sont vraiment curieux, ceux-là. Je vais d'abord tout de suite vous donner la pensée. Ce sont ceux qui connaissent la vérité, mais n'obéissent pas. On a lu, regardez, au verset 3, le roi Hérode, ayant appris tout cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs. Vous le remarquez là, verset 4. Et les scribes, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils lui dirent, à Bethléem en Judée. Ils savaient tout. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne serves pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël en peuple. Ils savaient où ils devaient naître, mais ils n'ont pas obéi. Ils connaissaient la vérité, mais ils n'ont pas obéi à cette vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Ils savaient. Et là, il y a une grande responsabilité, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que devant Dieu, un jour, cela, il est devant Dieu, il pouvait dire, ah oui, mais nous, le Seigneur va leur dire, mais vous saviez, vous connaissiez la vérité, et vous n'avez pas obéi. Donc, vous voyez, il y a un deuxième type par rapport à la vérité. Ceux qui connaissent la vérité, mais qui n'obéissent pas. Et ça, c'est tragique. Combien nous devons faire attention, chacun d'entre nous. Combien de chrétiens, même de gens disent, moi je connais, je sais. C'est partout de savoir. Vous voyez. Et beaucoup de gens disent, oui, mais je sais, tout ça. Oui. Jésus, il est là, Bethléem, ceci, je sais, oui, tout ça. J'ai appris ça à l'école du dimanche. Je sais. Est-ce que tu obéis? Si tu n'obéis pas, tu es comme ces sacrificateurs qui finalement l'ont rejeté. Et nous le savons toute l'histoire. Quand vous lisez la fin de Matthieu, ce sont les sacrificateurs qui, malgré qu'ils connaissent la vérité, ils se sont opposés à Jésus. Pourquoi? Parce que, n'obéissant pas à cette vérité, ils se sont fait des idées sur Jésus et de fausses conceptions. Ils pensaient que Jésus allait venir pour les délivrer du joug romain. Les Juifs, c'est ça qu'ils pensaient. Et voilà que Jésus vient pour être livré et mourir comme un agneau. Tu ne fais pas le vrai bus. Quoi ça? Oui, ils se sont fait des idées. Quand on n'obéit pas, on comprend la Bible de travers. Et on pense qu'on sait en plus. Oui, on prend des versets. Mais c'est un verset. Ah oui, mais tu le comprends de travers. C'est ça le problème. C'est pas le verset qui est un problème. C'est ton interprétation du verset.
Oui, voilà.
Tu fais dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et les sacrificateurs, c'était ça. Vous voyez combien nous devons faire attention. Nous pouvons utiliser même la Bible pour nous justifier. Pour justifier notre incrédulité, notre position. Non, pas d'accord. Même en prenant certains versets bibliques, voyez-vous, mais en les tordant. Et tout cela pour ne pas obéir. Vous voyez comme c'est? Il y a un piège. Et là, les sacrificateurs sont tombés dans ce piège. Hérode Il a envoyé du monde. Allez, oui, où il devait naître, ce Messie, ce roi. Là, à Bethléem, tout ça. Ils savaient tous. Mais eux, est-ce qu'ils ont bougé? Rien du tout. C'est les mages, les rois mages qui sont allés, mais ils n'ont pas bougé. Désolé, tranquille. On sait, mais on ne bouge pas. On sait, mais on ne fait rien. Quelle tragédie. C'est pourquoi ils seront jugés plus sévèrement. Nous ne le demandons pas. Si nous savons et que nous n'obéissons pas, nous serons jugés encore plus sévèrement. Dans sa justice, Dieu jugera ainsi. Ne soyons pas ces sacrificateurs ou ces gens religieux en somme, qui savent, mais qui n'obéissent pas. Veillons, veillons à cela. Si nous connaissons la vérité, il nous faut y obéir. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas obéir. Ça n'existe pas. Si nous n'obéissons pas, c'est le jugement qui nous attend. Comme le jugement est venu sur tous ces sacrificateurs. Malheureusement, ils connaissaient les promesses, les prophéties, et ils ont cependant été jugés et condamnés. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Quand on lit après tous les passages, à la fin, le souverain sacrificateur qui demande à Jésus, alors qu'il était devant eux, « Je t'adjure par le nom, au nom du Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu !»« Je le suis, tu l'as dit. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme descendre et tout cela. » »« Ça suffit, on a entendu, c'est un blasphème !»« C'est un blasphème !» Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité.
Et pourtant, ils savaient. Ils savaient tout, le concernant.
Mais ils ne croyaient pas que il était Dieu.
Voilà.
Voyez-vous ? Celui qui renie la divinité de Jésus ne peut être sauvé. Il est perdu.
Ah oui. Ah oui.
Parce que si Jésus n'est pas Dieu, il est. Et homme n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver.
Voilà.
Si c'est simplement un homme, il ne peut pas te sauver et il ne peut pas me sauver.
Bien sûr.
Il faut qu'ils soient les deux en même temps. Jésus est Dieu et homme. Il y a deux natures en lui. Pas une nature, deux natures. La nature divine et la nature humaine. Une nature humaine parfaite. Sans péché. Afin qu'il puisse mourir, lui, l'innocent pour nos coupables. Et une nature divine. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu seul peut pardonner les péchés des hommes. Amen. Donc il y avait en lui ces deux choses merveilleuses. Il était parfaitement homme pour mourir à la place des pécheurs. Il était l'innocent, le saint, le juste, le parfait pour mourir à notre place. Et il était Dieu. Cela prouve qu'il avait autorité pour nous pardonner. Personne ici au milieu de nous ne peut être pardonné sans que Dieu le pardonne. Si quelqu'un dit « Je te pardonne si, », s'il n'est pas Dieu, ne le croyez surtout pas. C'est un mensonge.
C'est un homme, lui aussi.
C'est un homme. Et vous-même, vous ne pouvez pas vous pardonner vous-même non plus.
Mais non.
Si vous pardonnez vous-même, vous prenez pour Dieu.
Ah oui.
Dieu seul peut pardonner. Et oui, par un moment, vous avez vu les pharisiens, quand Jésus a guéri un malade et qu'il lui a dit maintenant, bah, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais Dieu seul peut pardonner. C'est vrai. Mais ils ne réalisaient pas que Jésus était Dieu.
Voilà
pourquoi ils pardonnaient. Vous ne pouvez pas vous pardonner, moi je ne peux pas pardonner mes péchés. Je te pardonne, Seigneur, je te pardonne. Ça ne part pas comme ça, le péché.
Ouais,
le péché
non.
mérite un jugement. Le plus petit péché que vous ayez commis mérite le jugement et la condamnation éternelle.
Ouais,
oh, mais c'est grave tout ça. Arrêtez de me faire peur. Mais il vaut mieux avoir peur maintenant.
Mais c'est sûr.
Que de passer l'éternité en enfer, de fermer ses yeux et de les ouvrir en enfer. Il vaut mieux avoir un électrochoc maintenant.
Oh oui. Ça,
parce que là-bas, on l'aura l'électrochoc.
Mais ce sera trop tard. Hein.
Et l'enfer est pavé de gens. Si j'avais su, si j'avais su, ouais. si j'avais su, on m'a menti, j'ai menti, je me suis séduit moi-même. Quelle tragédie, n'est-ce pas vrai? Quelle tragédie.
L'enfer.
Jésus seul, parce qu'il est Dieu, peut pardonner tes péchés, mes péchés. Et parce qu'il était l'homme, sans tâche, sans défaut, seul être, lui seul pouvait se sacrifier à notre place pour donner, pour nous purifier. Ton nom soit béni.
Amen.
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 Ceux qui connaissent la vérité mais n'obéissent pas, faisons bien attention. Troisième type maintenant. Vous voulez le savoir, troisième type? Je vois que vous êtes curieux. C'est une bonne curiosité. Alors, on a dit de souligner qui aussi?
Hérode.
Ah, voilà. Hérode. Et qu'est-ce que vous pensez de lui? Eh bien, voilà la petite pensée que j'ai là. Hérode, toujours en rapport avec la vérité. Ce sont ceux qui ont peur de la vérité.
Voilà. Ah,
Hérode, il a entendu, il savait. Mais il a dit, oulala, qu'est-ce que c'est? Un roi? Mais c'est moi le roi ici. Je suis quoi ce soir? Un petit enfant roi? Mais le roi, c'est moi! La crainte, la peur l'a envahi. Comment? Montrez-moi où il est, moi je vais aller l'adorer. Alors, je vais aller l'adorer. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et c'est l'homme qui avait peur de la vérité. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils ont peur de cette vérité parce qu'ils ne veulent pas changer.
C'est ça.
Ils ne veulent pas changer. Ils veulent rester maître de leur vie. Comme Hérode voulait rester maître de sa vie. Hein, il voulait rester sur le trône. Et nous, bien souvent, on veut rester sur notre petit trône. On n'a pas un trône royal, mais on a quand même un petit trône. On sait, chacun de nous s'est fabriqué un petit trône. La preuve, c'est que quand on parle un petit roi. Moi, je veux.
Je vois.
Attention, c'est que quand on parle, on a l'impression que c'est un petit roi qui parle. Ou un prince, ou une princesse. La preuve, c'est que on parle
à qui on parle.
Mais vous ne connaissez pas, monsieur, madame. On dit, oui, oh là là, tu as dormi, tu viens d'où? Quelle descendance es-tu? On parle comme des rois, comme des princes. Comme pour dire, hé là, moi je suis un trône. Je dois défendre mon trône. Et je ne descendrai jamais de ce trône. C'est ma vie. Ceux qui ont peur de la vérité. Et il y en a beaucoup qui sont là pour défendre leur trône, mais qui finalement, parce qu'ils n'ont pas offert leur cœur au Seigneur, ils perdront ce trône et ils perdront leur vie pour toujours. Ton cœur est comme un trône où Jésus seul
doit
régner.
Amen. C'est vrai.
Ton cœur a la forme d'un trône. Et ce trône doit avoir un seul roi,
c'est
un seul chef, un seul sauveur, c'est Jésus. Mais malheureusement, beaucoup sont attachés eux-mêmes. C'est moi, abdiquer, dire maintenant, c'est fini, c'est plus moi le maître de ma vie, c'est Jésus. Ça, c'est très difficile. C'est là, à cause de cet orgueil. Parce que c'est une forme d'orgueil. Non, moi je veux faire ma vie.
Comme je
parler à n'importe qui dans la rue, c'est pas ça.
Bien
quand tu donnes ton cœur au Seigneur et puis abandonne ta vie. Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi vous me parlez là? Vous êtes un fanatique, toi. Oui, tout de suite.
Voilà,
les humanistes sont bien vus sur cette terre, vous êtes d'accord? Il est humaniste quand quelqu'un mort, et un grand homme, c'était un humaniste.
On se court presque devant lui.
Pour dire, il était sur son trône. Il était bien sur son trône. Mais ça veut dire quoi pour un chrétien? Ça veut dire qu'il a voulu vivre sa propre vie et que Jésus n'avait rien à faire dans sa vie. Il n'avait aucune part. Aucune part. Et nous n'avons pas été créés pour être notre propre chef. Nous avons été créés pour un grand chef, pour le roi des rois. Non pas pour que nous soyons nous les rois de notre vie, mais que le Seigneur, lui, le roi légitime, soit le maître de notre vie.
Notre créateur.
Si nous prenons la place de roi, nous sommes des rois illégitimes. Nous prenons une autorité qui ne nous appartient pas. Nous prenons quelque chose qui ne nous appartient pas. Le titre légitime de roi, c'est Jésus qui doit l'avoir dans notre vie.
Amen. Oui.
Et si toi, tu te prends pour un roi, alors, tu fais quelque chose d'illégitime, d'illégal, selon le plan et la sagesse de Dieu, et la loi divine. Tu es un usurpateur. Je cherchais ce mot. Je tourne en rond, Est-ce qu'il va venir le mot usurpateur? Et il est venu. Nous sommes des usurpateurs. tu prends quelque chose, une autorité qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à Jésus seul. Et tant que nous ne le faisons pas, nous sommes des rois illégitimes. Tôt ou tard, ce roi-là sera jugé et condamné. C'est un humaniste. Ah oui, il a été honoré ici-bas. Mais là-bas, ça sera terminé. Ceux qui rentreront là-haut, ce sont ceux qui ont fait de Jésus le roi légitime de leur vie. Et pas seulement en parole, mais en action et en vérité.
Amen.
Pas seulement, oh Jésus, tu es mon roi. Non, ça ne marche pas. Quand il est roi, oui, il est roi. Oui, mais en attendant, il arrive vers le roi, il veut le tuer. Pas de concurrent. Surtout pas. Ceux qui ont peur de la vérité, n'ayons pas peur. Si Jésus prend les rênes de notre vie, alors il transformera tout. Nous allons commencer à vivre vraiment. Si nous vivons pour nous-mêmes, nous serons esclaves de nous-mêmes. Celui qui est libre, c'est celui qui vit, qui donne les rênes de sa vie à Jésus. Celui qui est esclave, c'est celui qui garde les rênes de sa vie. Moi, c'est moi. Voici le trône. Il veut garder quelque chose qui ne lui appartient pas. Tu as été créé pour Jésus. C'est Jésus qui t'a créé. Et tu ne veux pas de lui. Regardez la contradiction. Il est ton sauveur et ton Dieu, tu n'en veux pas. Moi, je fais ce que je veux. Ah, c'est ça le péché. Et c'est ce qui perdra des multitudes de personnes. Même si cette personne fait beaucoup de bonnes choses, ça ne sauvera personne. Il y a un roi légitime. Jésus seul doit régner sur notre vie.
Amen.
Amen. Et puis, quatrième type, et je vais terminer par là, c'est avec Joseph et Marie. Et qu'est-ce qu'on voit avec eux? Le quatrième type, ceux qui sont des gardiens de la vérité. Des gardiens. Hein? Dieu s'est révélé à eux, et ils ont obéi. Après, quand l'ange dit, allez maintenant, vous partez. À Joseph ensemble, il se révèle. Tu t'en vas parce que il y a un numéro là-bas qui va, qui cherche un peu à détruire l'enfant. Alors, fais, allez, tu t'en vas en Égypte pour le moment. Et quand il sera mort, je te reviens. Est-ce qu'il a discuté, Joseph?
Non.
Pas de discussion. Et on le remarque chaque fois qu'un ange s'adressait à Joseph. Eh bien, il était obéissant. Quand il voulait quitter Marie, vous vous souvenez, parce qu'elle était enceinte, il s'est dit, mais que ça, elle m'a trompé. Et là, tout de suite, au moment où il pensait ça, il était sincère. Il ne voulait pas diffamer sa femme publiquement. Il a dit, je vais faire ça en secret. Et puis, il a vu qu'il était sincère. Dieu lui envoie un ange là-bas. Et l'ange est arrivé, Joseph, je sais que tu es droit. Mais ta femme, Marie, c'est autre chose. C'est ta fiancée encore. Elle, elle a enfanté. C'est le Saint-Esprit qui est mis sur elle. C'est un événement surnaturel. C'est un miracle. Prends-le. Prends-la. Ne doute pas.
Mais il a accepté.
Et quand l'ange lui dit, maintenant tu t'en vas, il s'en va. Ils ont gardé la vérité. Donc garde la vérité en la mettant en pratique. L'obéissance, comme on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit à Michel, l'obéissance, c'est la foi en action. C'est ça, l'obéissance. La vraie obéissance, c'est la foi en action. Et nous devons être des gardiens de la vérité. Nous devons combattre pour la vérité. Je pourrais vous donner 50 versets là-dessus maintenant. Mais nous devons être de ce type-là, de ceux qui gardent la vérité, maintenant, désormais. Comme quelque chose de précieux, comme Joseph et Marie. Et chaque fois, ils ont obéi, chaque fois. Et c'est ainsi que Dieu a pu les conduire. Et ils ont pu accomplir le plan de Dieu pour leur vie. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est nous, dans la mesure où nous obéissons, nous gardons cette vérité. Garde la vérité, et la vérité te gardera. Garde la vérité, et la vérité te gardera. Alléluia.
Amen.
C'est merveilleux. Amen. Ils ont gardé la vérité. Oui, et la vérité les a gardés. Et ils ont pu accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Un plan exceptionnel, naturellement. Un plan glorieux. Mais nous aussi, Dieu a un plan pour nous. Si nous sommes prêts
à
obéir, à garder cette vérité coûte que coûte, jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À ce moment-là, quand on est prêt à mourir pour le Seigneur, c'est là qu'on est véritablement libre.
Oui.
Il n'y a plus rien. Nous n'avons peur de plus personne. Toute crainte disparaît lorsque quelqu'un est prêt à mourir pour le Seigneur. Le Seigneur dit, bon, parce que tu es prêt à mourir maintenant, alors tu vas vivre. Tu vas vivre. Mais d'une façon qui va me glorifier vraiment. Parce que désormais, tu ne crains plus personne. Tu me crains moi. Tu me crains moi et ma parole. Alors, je peux t'utiliser. Les gardiens de la vérité. Puissions-nous être de cela. Amen. Les vrais, sans crainte. Et ce qu'il a commencé en vous, en moi, il l'achèvera. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia.
On pourrait aussi ajouter ce verset. Celui qui voudra sauver sa vie,
la perdra.
Si on veut sauver notre vie,
bien sûr.
On va perdre.
Et celui qui la perdra à cause de
la retrouvera.
La sauvera.
Et la retrouvera.
Ouais.
C'est une réalité. Ça.
Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous pas la vérité. Que nous soyons de ceux qui vraiment gardent la vérité.
Amen.
Aiment la vérité. Cherchent la vérité. Connaissent la vérité. Et obéissent à la vérité.
Amen, Seigneur.
Que nous soyons, Seigneur, tous de ces personnes.
Oui.
Et c'est alors que ton plan se réalisera, comme il s'est réalisé pour les mages.
Gloire à toi, Seigneur.
Et pour Joseph et Marie.
Oui.
Ils ont pu atteindre le but que tu avais pour eux.
Oui.
Et nous atteindrons le but aussi
que tu as pour chacun d'entre nous.
Qu'il en soit ainsi.
Pour moi. Amen, Seigneur. Alléluia.
Qu'il en soit ainsi pour ta seule gloire.
Amen, Seigneur.
Sans craindre les hommes. Mais en ayant la seule crainte de Dieu dans notre vie.
Amen.
Car un jour, c'est devant Dieu que nous serons jugés.
Mm-hmm. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur.
Gloire
et à ton nom soit toute la gloire. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci Seigneur.
C'est merveilleux parce que j'avais donné cette pensée au début sans savoir ce que Samuel allait dire. Et c'était ça aussi, cette parole. Parce que Samuel ne me dit jamais, moi non plus je ne lui dis pas ce que je reçois. Et j'avais dit tout à l'heure, et je le répète, pour quelqu'un ici, je veux, le Seigneur te dit, je veux que la vérité soit au fond de ton cœur. Comme c'est vrai, je ne savais pas sur quoi tu allais parler, rien.
Moi-même, je ne savais pas encore.
Oui, alors justement.
Sur ce que je devais parler, alors il ne pouvait pas savoir.
Eh non, pas vraiment.
C'est toujours comme ça.
Le Seigneur, on est tellement en communion d'esprit avec le Seigneur, chacun et ensemble, que le Seigneur complète toujours. Oui, il donne, c'est formidable ça. Hein. On est toujours surpris. C'est un miracle ça en soi aussi. Comment lui, qui est une personne différente, peut avoir la même pensée que moi qui suis quand même, on est un, mais d'accord, mais on est deux personnes à part entière quand même. Je veux que la vérité soit au fond de ton cœur. J'aime la droiture. Me voici pour sonder ton cœur et l'amener à ma parfaite lumière. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux le comprendre. Mais si tu laisses mon esprit t'éclairer, tu comprendras ce qui t'est resté caché jusqu'à ce jour. Ça, c'est incroyable. Hein, ça, c'est... On aurait dit que j'avais entendu ton message avant de l'entendre. C'est merveilleux. Et je voudrais rendre témoignage quand même à la gloire du Seigneur. Si le Seigneur, si sa parole est la vérité, il est dit aussi que Dieu envoya sa parole et il guérit. La preuve que sa parole est la vérité et qu'il est vivant aujourd'hui, c'est qu'il confirme sa parole et qu'on voit aujourd'hui des guérisons. On le voit guérir des gens qui sont dans des situations désespérées, médicalement condamnées par la médecine, pour prouver que la Bible, c'est la vérité absolue. Absolue et qu'il y en a... Oui, et qu'il faudrait peut-être écouter celui qu'on voit agir de cette façon-là. Alors, on était donc à Montélimar il y a 15 jours, c'est pas vieux, hein, ou 3 semaines. Et puis, il y a quelques personnes qui ont été guéries là-bas. Il y en a une aussi, une ou deux à Lausanne aussi, il y a une semaine. Mais je voudrais prendre celle qui a téléphoné hier pour confirmer son témoignage. Et qui glorifie vraiment le Seigneur, qui est magnifique. Elle écrit, elle s'appelle Claudia Saban, elle est de Paris. Et elle est venue jusqu'à Montélimar. Je voudrais rendre gloire à mon Père Céleste, elle dit, pour sa grande bonté envers moi lors de la dernière convention compassion à Montélimar.
Elle a servi à la table de librairie,
oui,
c'est ça,
oui,
avec d'autres.
Avec d'autres, elle
servait. Elle faisait partie un peu de l'équipe.
De l'équipe, voilà. Oui. Pour être précise, je dirais que le Seigneur m'a guéri de graves difficultés respiratoires. Il s'agissait en fait d'une bronchite asthmatique, de l'asthme en fait. Il m'a également guéri de diverses allergies très éprouvantes. J'avais par moments de très grandes difficultés à respirer et cela devenait extrêmement pénible. J'avais parfois l'impression d'étouffer. Lors de la dernière réunion, ma sœur Dorothée a dit que le Seigneur touchait, guérissait quelqu'un dont les bronches étaient obstruées et qui avait les poumons malades. J'ai immédiatement accepté de tout mon cœur cette parole de connaissance et j'ai remercié le Seigneur pour ce qu'il était en train de faire en moi. Il m'a alors entièrement guéri de mon asthme. Toute crise, tout étouffement, ça fait 3 semaines, 1 mois, a complètement disparu. Ma vie en a été transformée. Écoutez, c'est pas fini. Les allergies qui me faisaient tant souffrir ont également disparu. Je suis allée consulter une allergologue qui a confirmé, suite à des tests, que toutes mes allergies avaient disparu. Gloire au Seigneur. J'avais également un problème d'utérus. Je ne pouvais jamais garder les enfants que Dieu me donnait. La preuve en était mes 2 fausses couches. Là aussi, suite à un nouvel examen médical de mes organes génitaux, mon utérus a été déclaré rétabli. Tout à fait normal. Gloire et honneur à notre Seigneur. Toutes ces guérisons que le Seigneur m'a accordées ont aussi transformé mon foyer. Regardez jusqu'où ça va. Ont transformé mon foyer. Mon mari en a été lui-même très touché et béni dans sa propre vie. Là encore, le Seigneur a fait une œuvre de restauration. J'ai aussi été puissamment renouvelée spirituellement à cette convention par tout ce qui a été dit, la prédication de la parole de Dieu, les témoignages d'intervention divine, la communion fraternelle si intense, mon cœur ressentait une très grande paix et une immense joie. C'était comme si le Seigneur venait de me guérir de toutes les déceptions de l'année écoulée. Un attouchement du cœur, cette fois, intérieur. Il m'a donné comme une nouvelle assurance pour aller de l'avant. J'ai eu la confirmation qu'il n'y a vraiment rien d'étonnant de la part de l'Éternel.
Amen.
Le Dieu Tout-Puissant.
Amen.
C'est tellement rassurant et fortifiant de voir la gloire du Dieu vivant. Je bénis le Seigneur pour son amour, sa compassion, sa patience et tous ses bienfaits envers moi. Je lui rends grâce d'avoir pu bénéficier de votre ministère et de m'avoir tant béni depuis 6 ans que j'assiste à vos réunions. Votre intégrité, vos enseignements ont porté du fruit et m'ont aidé à connaître et à m'approcher du Seigneur. Que sa paix et sa grâce continuent de vous accompagner pour la seule gloire de son merveilleux nom.
Amen.
Si c'est beau.
Merci Seigneur.
Guérie de plusieurs maladies, le foyer transformé, elle m'a même dit au téléphone qu'ils avaient de meilleures relations avec son mari et que son mari qui était sans travail a trouvé du travail. Oh, ça vous dit?
Ça gauche,
la vie transformée de ce couple, c'est extraordinaire quand même. Et puis là, je vais poursuivre juste par celle de Lausanne. Témoignage de Madame Danielle Aubert qui vient de me téléphoner. Et je l'ai interviewée au téléphone. J'ai rédigé ensuite son témoignage qu'elle voulait, qu'elle préférait que je... Ça s'est passé samedi dernier, c'est pas vieux, hein. On était à Lausanne et le Seigneur m'a donné quelques paroles de connaissance. Et il a touché des gens. Il est intervenu. Dans cette dame de Genève, elle dit... Je remercie le Seigneur de tout mon cœur d'être venu à mon secours en me guérissant d'un grave problème cardiaque que la médecine n'arrivait pas à maîtriser. C'était à l'occasion du séminaire Compassion à Lausanne en mai 2006. Étant diabétique, insulinodépendante, sous la pompe tout le temps d'insuline, tout le temps, à vie. Donc ça, c'est pas encore réglé. Mais j'avais été hospitalisée déjà à plusieurs reprises. Cette maladie m'avait plongée dans un coma diabétique mortel en 1994. Mais le Seigneur était intervenu et m'avait relevé. Je rends gloire au Seigneur de m'avoir secouru à ce moment-là. Cependant, ma situation s'était encore aggravée. À mon diabète s'était ajouté un grave problème cardiaque. Mon cœur s'était mis à battre beaucoup trop rapidement, à un rythme absolument anormal, que je sois debout, assise ou couchée, jour et nuit c'était. Pom, 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 elle disait, ça me faisait, et ça lui faisait pom, 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 hein, quand le corps se met à battre trop fort. À cela s'ajoutaient bien sûr des crises d'angoisse fréquentes que je n'arrivais pas à maîtriser. Le médecin m'avait prescrit de nombreux médicaments que je devais prendre régulièrement. Cette situation me préoccupait beaucoup, car plusieurs personnes de ma famille sont décédées suite à ce problème cardiaque. Donc, elle était dans l'angoisse, je ne vous dis pas. Une amie m'a proposé de me rendre avec elle au séminaire de Samuel et Dorothée à Zacordien à Lausanne. Je ne connaissais ce couple que suite à ma lecture de plusieurs de leurs livres. Puis elle m'a dit, c'était absolument, au téléphone, elle m'a ajouté, c'était absolument une surprise. Je n'ai rien demandé au Seigneur. C'était un cadeau, mais gratuit, de la part du Seigneur. Elle n'y s'y attendait même pas non plus. Vous voyez que parfois, le Seigneur a des surprises aussi même. Sans qu'on crie à lui, il intervient encore, dans sa grâce. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsqu'au cours de leur réunion, Dorothée reçoit du Seigneur cette parole de connaissance. Une personne présente ici a un cœur qui s'emballe et bat beaucoup trop vite. Et cela crée en elle de l'angoisse, ce qui aggrave encore sa situation. « Je mets ma main puissante, dit le Seigneur sur toi, je calme ton cœur, ce qu'aucun médicament n'a pu faire jusqu'à ce jour. » Quelle surprise ! Ce fut pour moi. Quelle surprise ce fut pour moi. Je loue le Seigneur de ce qu'il s'occupe ainsi de ma vie. J'ai immédiatement pris cette parole pour moi et, ô merveille, mon cœur a cessé ses battements effrénés, immédiatement. Ce soir même, pour la première fois, j'ai pu dormir sans médicaments. Et depuis ce moment-là, j'ai cessé tout traitement. C'était si pénible d'entendre constamment ce cœur qui battait si fort. Tout s'est calmé, gloire au Seigneur. Je le remercie pour cet attouchement divin. Et je crois aussi que cette intervention de sa part m'a attiré encore plus près de lui. Et que l'œuvre qu'il a commencée en moi, il l'achèvera aussi pour sa seule gloire. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui n'a jamais changé, qui est toujours le même. Tu faisais des miracles à Bethléem, à Jérusalem, partout où tu passais, Seigneur. Tu guérissais les malades. Et tu le fais encore aujourd'hui, parce que tu es vivant et pour confirmer que ta parole est la vérité. Nous voulons te bénir. Toi qui fais des choses comme ça aujourd'hui, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire et ce que tu nous as dit aujourd'hui. Et nous voulons le mettre en pratique et t'obéir, Seigneur, quand tu nous parles. Seigneur, tu ne parles pas pour rien dire et nous voulons être attentifs. Et nous savons aujourd'hui encore que tu nous aimes et que tu ne veux pas la perdition d'un homme, mais tu veux son salut. Amen.